Alors, on va écouter cette fois-ci une communication à deux voix, donc présentée par Laura Muller-Thomas et Marie-Lucie Bougon, qui sont deux doctorantes contractuelles en littérature comparée à l'Université d'Artois, sous la direction d'Anne Besson. Donc Laura, le titre de sa thèse, c'est « L'Allemagne des merveilles, représentation et influence du folklore germanique dans la fantaisie contemporaine, ère germanophone et anglophone années 1970 à nos jours ». Et Marie-Lucie Bougon, la réception de la fantaisie en France de 1972 à nos jours, de l'importation à l'appropriation. Et le titre de leur communication aujourd'hui est « Le pouvoir des mots, les personnages de conteurs et de bardes » ou « Comment la parole façonne la réalité ».
Comme ça, c'est oui. Alors du coup, merci beaucoup pour la présentation. Et merci beaucoup aussi, surtout aux organisateurs du colloque, de nous permettre de prendre la parole aujourd'hui.
Pas vraiment.
C'est affiché ? En grand ?
Oui. D'accord. Bon, et bien tant mieux.
Pas chez nous, mais très bien. Et du coup, pour commencer, je donne la parole à Marie-Lucie.
Donc, nous allons vous parler aujourd'hui des personnages de bardes, de conteurs, donc de ceux qui racontent des histoires. Ça ne fonctionne pas extrêmement bien. C'est bon ? D'accord. Alors, qu'il soit érudit, scald ou scélérat, un barde façonne la magie à travers ses mots et sa musique pour inspirer ses alliés, démoraliser ses ennemis, manipuler les esprits, créer des illusions et même pour soigner les blessures. Cette description de la 5e édition de Donjons et Dragons offre déjà une première approche des différentes attributions du barde dans de nombreux univers de fantasy médiévale fantastique où l'on retrouve une multiplicité de conteurs, aèdes, rhapsodes, troubadours, etc., prêts à accompagner les aventuriers dans leur quête et à leur prodiguer leur sagesse. Les talents de ces personnages sont assez multiples. Ils sont conteurs, comédiens, poètes, musiciens, chanteurs, magiciens, parfois même guérisseurs ou devins. Quoi qu'il en soit, quand ils apparaissent dans les romans de fantasy, ces protagonistes sont toujours les héritiers d'un savoir ancien et les détenteurs d'un art qui est à la fois mystérieux et puissant. Donc notre intervention s'attachera à... comprendre et à analyser les formes et les enjeux de l'art du barde dans la fantasy.
Du coup,
on est perdu. Nous pencherons tout d'abord sur son rôle et ses attributions sociales. Puis nous explorerons la portée de son art, qui oscille souvent entre science et magie. Et enfin, nous nous interrogerons sur l'intrication des récits et des poèmes bardiques sur les différentes strates de l'histoire du monde fictionnel. Alors pour ce faire, nous allons utiliser un certain corpus que je vais un peu vous présenter. Donc l'Étoile du matin de David Gemmell, Le don de Patrick O'Leary, Le sorceleur d'André Sapkowski, Roi du monde de Jean-Philippe Jaworski. Alors je crois qu'il nous a rejoint, donc j'espère vraiment ne pas dire de bêtises à ce propos. Avant l'hiver de Léa Silol, Thomas le Rimmer, d'Hélène Kuchner, La mort peut danser de Jean-Marc Ligny et La symphonie des siècles d'Elisabeth Haydon. Et puis on citera de temps en temps quelques autres œuvres quand ce sera nécessaire hein, pour étayer notre propos par moment. Donc voilà, le barde dans les sociétés d'imaginaire. Donc les protagonistes de barde apparaissent en priorité dans les romans de fantasy d'inspiration médiévale fantastique. Ils sont souvent accompagnés de leur instrument de prédilection. En général, une harpe, une lyre, un luth, parfois un tympanon, hein, comme c'est le cas dans La mort peut danser. Leur art peut être aussi seulement vocal. Dans Le don de Patrick O'Leary, hein, il s'agit seulement de conteurs qui délivrent des récits parlés.
Sur la bonne, on voit pas en fait le PowerPoint.
Les bardes que l'on rencontre dans la fantasy sont majoritairement inspirés de ceux de la société celtique, du moins telle qu'elle est présentée dans certaines sources. On va le voir dans la tableau. Qui devrait apparaître.
On est bloqué sur la première citation de tout à l'heure.
Oh non. D'accord. On va essayer de le relancer.
Là, ça a changé.
Oui.
Ah mais non, c'est le mien.
Oui, c'est normal.
On le relance.
On a...
Oui, ça c'est le mien, il faut le fermer, je pense.
D'accord. Il a déjà été fermé.
Ouais. Ah bon.
Ouais.
Non, on n'est pas fermé.
Ah non, toujours pas. Ouais. Je pense qu'il y a...
Ah. C'est bon ?
Ouais.
voyez le tableau ? Ok. Donc ce tableau hein, que j'ai un petit peu j'ai pris et pas mal simplifié est dans l'ouvrage de Christian Guyenbarck et Françoise Leroux sur, sur les druides. On voit que les bardes sont une branche de la classe sacerdotale et les fonctions de poète, de musicien, de conteur ne se limitent pas aux bardes. Le druide, bon, vous voyez dans le tableau, hein, responsable du sacrifice, magistrat, poète aussi et devin. Le vat ou le fili en Irlande est satiriste, conteur, magicien, médecin, musicien, devin, enseignant, etc. Et le barde a l'air d'avoir des compétences qui sont plus limitées. Il est musicien, poète, mais surtout poète de cour. Il pratique avant tout la louange et le blâme. Alors, certains auteurs de fantasy respectent assez scrupuleusement ce modèle et d'autres s'en inspirent assez librement. En tout cas, on verra que les personnages de bardes récupèrent des caractéristiques qui viennent aussi des druides et des vats, du moins tels qu'ils sont présentés ici. Et on voit aussi que ces personnages, qu'on appellera généralement les bardes hein, par facilité, ont des statuts sociaux qui sont plus ou moins importants. Donc certains bardes ont un statut social assez fragile. Leur rémunération provient du bon vouloir des souverains et ils sont souvent inféodés à ceux qui leur offrent l'hospitalité. Ils vont de ville en ville en espérant trouver un bienfaiteur. C'est le cas de Thomas le Rimmer chez Hélène Kunchner qui déplore hein, ce statut dépendant.
L'humble ménestrel qui joue de la harpe le soir dans un coin de la salle de son maître pour obtenir de lui du pain, un toit et une caresse sur la tête est un homme transi et sans nom quand le maître est parti.
Et d'ailleurs, on donne souvent au savoir-faire de Thomas à peu près la même valeur que le savoir d'un artisan. Dans votre citation que je ne vais pas lire, mais que vous pouvez voir. Cette précarité est d'ailleurs parodiée dans celui qui apprécie Kaamelott, hein, dans l'épisode 7 du livre 1, où un barde se plaint hein, de son système de rémunération et chante une chanson concernant un de ses confrères qui serait parti sans pain et sans fruits, voilà. Alors d'autres bardes, au contraire, hein, sont beaucoup plus puissants et ont même un statut assez privilégié. C'est le cas dans Roi du Monde, où le barde Albios a obtenu, grâce à son talent, le statut de champion à la cour du roi Ambigat, et il bénéficie d'une grande liberté, il peut voyager dans les terres celtes et se faire recevoir comme un invité de marque par les différentes familles. Recevoir une de ses chansons est un présent inestimable, et au contraire, recevoir une satire de sa part serait synonyme de déshonneur et de malheur. On remarque qu'il n'y a pas forcément de corrélation hein, entre la liberté du barde et son prestige. On voit certains bardes itinérants qui sont très puissants, comme Albios, d'autres qui sont miséreux. Certains, comme dans le Don, le personnage de Tim, lui est un barde qui est attaché à un souverain, et cette proximité lui confère un grand pouvoir. Et puis ce statut peut bien sûr être fluctuant. C'est le cas du personnage d'Astérie dans L'Assassin Royal, qui est au départ une ménestrelle itinérante, et puis après avoir mis en chanson les exploits du prince Vérité, elle devient la ménestrelle officielle de la reine, finit par épouser un duc, etc. Quoi qu'il en soit, le barde, quand il performe son art, suscite plaisir et émotion. Ses visites sont toujours des moments de réjouissance. Quand il joue à la cour de la Reine des Fées, Thomas le Rimmer subjugue en général son auditoire. Il en est de même pour Forgail dans La mort peut danser de Jean-Marc Ligny. Je vous laisse lire la citation. Et les prestations de ces bardes sont souvent mises en scène de manière travaillée et intéressante dans les moments de fantaisie. Certaines des œuvres de notre corpus ont ainsi un double niveau de narration qui inclut le temps de l'histoire racontée par le barde. Certains auteurs font vraiment jouer hein, ces deux niveaux de temporalité en incluant des interruptions qui rappellent au lecteur qu'il se trouve bien dans un système de récits enchâssés. C'est le cas dans Le Don de Patrick O'Leary, où le conteur commence son histoire dès le prologue, puis s'interrompt très souvent, en début et en fin de chapitre. On assiste ainsi aux réactions de l'auditoire et puis on découvre hein, la gestuelle du conteur.
Des questions ? Le conteur se passe avec un sourire et le visage troublé de l'équipage. Si ces hommes avaient une question, elles n'étaient pas d'accord du genre formé par les mots. Ils ne savaient pas par où commencer. Alors le conteur rectifia sa position sur le pont et poursuivit.
On trouve un procédé assez similaire dans L'Étoile du matin de Gemmell, et notamment dans le prologue où le conteur interpelle un tu imaginaire qui est créé par son talent, une sorte de personnage illusoire créé par son talent de magicien. C'est évidemment aussi une figure du lecteur, hein, ce tu imaginaire. Le procédé est légèrement différent dans roi du monde de Jean-Philippe Jaworski. Bellovez fait le récit de sa vie à un interlocuteur dont on sait assez peu de choses, il me semble, si ce n'est qu'il est grec, afin que celui-ci puisse ensuite colporter cette histoire dans le monde. En début et en fin de roman, et parfois même au milieu du récit, dans un moment d'intensité, l'auteur nous rappelle cette situation d'énonciation qui est assez particulière. Bellovez explique pourquoi il fait ce récit, pourquoi il choisit de placer les événements dans cet ordre, ou alors invite son hôte à boire en l'honneur d'un défunt. On se trouve ici dans l'antichambre en fait, de la création du récit bardique, parce que Bellovez n'est pas barde lui en tant que tel, mais il se fait conteur temporairement afin que son histoire devienne conte dans la bouche d'un autre, transfiguré par l'art de la aide qui l'écoute. On est également dans cette antichambre, cet atelier du barde en quelque sorte, dans Avant l'hiver de Léa Silol, qui est une sorte de recueil disparate de récits, contes, comptines, chansons, etc., que le barde Kélis a collecté. Ainsi, qu'il soit un personnage prestigieux ou un vagabond, le barde suscite l'émotion de son auditoire, le subjugue. Les scènes où il performe son art bénéficient d'une vraie mise en valeur dans la fiction, qui étend son pouvoir de fascination au lecteur lui-même, car il est indubitable que le barde fascine. Transmetteur d'un patrimoine culturel, gardien d'une sagesse ancestrale, il est aussi souvent le détenteur d'un art plus secret que celui du chant, un art qui peut devenir pouvoir.
Donc si les personnages de barde possèdent certes un talent agréable et divertissant, ils incarnent en général un rôle qui va bien au-delà de celui du simple plaisir. Ils sont donc tantôt magiciens, sages, guérisseurs ou même conseillers politiques. Leur répertoire ne consiste pas qu'en des ballades et ritournelles légères, puisqu'ils chantent également des récits d'une dimension mythique et aux enjeux capitaux. En effet, ils sont les gardiens du savoir et peuvent rappeler à la mémoire les histoires concernant d'illustres et antiques héros, ainsi que les récits fondateurs de l'humanité. Ainsi que le rappelle la baptistrelle rhapsodie dans la Symphonie des siècles.
Le principal sujet d'étude des bardes, ce sont les traditions. Parfois, il s'agit de vieux contes, ou de l'histoire d'une race ou d'une culture en particulier. Parfois, c'est une série de chants et de chansons relatant une histoire importante qui, sans cela, serait perdue.
Dans le Don, le conteur Tim explique à son public comment l'humanité est devenue ce qu'elle est grâce à la volonté invasive des sorciers qui sont en fait des sortes d'aliens qui sont venus sur Terre pour prendre possession de l'humanité et à travers eux faire vivre leurs histoires.
Les histoires. La seule chose et rien d'autre qui nous a différenciés des animaux. Avant que surviennent les sorciers, il n'existait pas d'histoire. Ce fut cela leur don, celui qui nous a rendus humains.
Cette connaissance primordiale leur permet de jouer le rôle de guide spirituel du héros et de l'accompagner tout au long de sa quête pour lui délivrer les informations nécessaires qui lui permettront de parvenir à la victoire. Donc plus que de simples spectateurs de l'action qui se déroule dans le roman et plus que de simples répertoires vivants, ils sont capables d'agir et d'intervenir dans la réalité de leur monde. Et ce, notamment parce qu'ils en connaissent les clés et les secrets capables de vaincre le mal. Dans Harry Potter, les contes de Biddle le barde sont la clé qui manque aux héros pour vaincre Lord Voldemort, et c'est grâce aux contes des trois frères trouvés dans le petit recueil que Dumbledore lègue à Hermione et que les héros entendent aussi de la bouche de Xenophilius Lovegood que le héros, possesseur au départ de la dernière des trois reliques, la cape d'invisibilité, va comprendre leur importance et les réunir pour en user au moment fatidique de l'affrontement final. C'est aussi grâce au récit d'Oldnan dans Le Trône de Fer que le jeune Bran Stark accepte de croire aux visions de Jojen Reed et de le suivre pour se rendre auprès de la corneille à trois yeux et y accomplir son destin. Et c'est pour leur sagesse et parce qu'ils détiennent ce savoir ancestral que les conteurs sont, de manière générale, des personnages privilégiés à la cour et de proches conseillers des souverains. Dans Roi du Monde, nous l'avons vu, le barde est proche du haut roi en Bigate, et justement, lors du jugement de Bellovez, le haut roi décide d'épargner, sur le conseil de son barde, le personnage responsable de crimes de sang qui déchirent leur famille. Responsable, entre autres. Dans L'Étoile du Matin, si le héros ou anti-héros Jarak Mays n'est certes pas un seigneur et qu'il ne possède pas de terre ou de château, le barde Owen Odell n'en est pas moins son conseiller le plus proche et le plus influent. Et Jarek se range systématiquement en son opinion en ce qui concerne toute affaire de négociation politique, entre autres. Et à la fin d'une discussion avec un noble qu'il tente de convaincre de rejoindre sa cause, Jarek demande l'avis d'Owen, comme vous pouvez le lire. Et c'est aussi ce même barde qui est à l'origine de la révolution que mène le héros, Jarek, et qui l'encourage sans cesse à continuer, à ne pas abandonner le peuple des Highlands. Et c'est même lui qui est à l'origine du surnom « Étoile du matin » qu'on lui attribue dans le cadre de cette révolution. Donc cette sagesse en fait de nos personnages de barde également des érudits, des hommes de science ou de magie, et leur pouvoir peuvent prendre différentes formes. Dans un premier temps, la connaissance de l'univers dans tous ses détails, et plus particulièrement la connaissance du véritable nom des choses, leur permet un contrôle absolu sur elles. Dans la Symphonie des siècles, Rhapsody possède un tel don, celui de rendre aux choses dont elle connaît le véritable nom leur forme originelle. Par exemple, alors qu'avec son groupe, il se retrouve sans aucune vivre, à part une tranche de pain rassis, elle rend à ce dernier son état originel, à savoir un bon pain fumant, tout juste sorti du four. Et c'est avec la même technique qu'elle parvient également à préserver ses compagnons lorsqu'ils traversent un mur de flammes. Ses pouvoirs, cette fonction ne sont pas sans rappeler, ainsi que nous l'avons souligné dans l'introduction, le rôle du barde dans les jeux de rôle médiéval fantastique. Il y sert principalement de support, et les clichés voudraient qu'il dégaine ses instruments au moment où ses compagnons dégainent leurs armes, et qu'il leur apporte notamment des bonus sur les jets de dés d'attaque, de défense, d'esquive, ou qu'il crée des illusions pour tromper les ennemis. D'une autre façon, mais selon le même principe que Rhapsody, pardon, le roi Simon parvient dans le don à détruire un dragon qui avait réussi à le piéger en prenant la forme humaine d'une femme extrêmement séduisante et qui cherchait à le dévorer.
Le roi se leva sans rien dire, adopta la posture qui convenait et prononça un seul mot. Le nom de dragon, le seul nom de dragon qu'il connut, le seul qui fut nécessaire. La bête se rétracta, comme si on lui avait pincé l'échine. Simon répéta le sort, regardant l'infecte créature se consumer dans son propre feu.
Les mots ont donc même le pouvoir de tuer. Et la force et le pouvoir des mots permettent ainsi non seulement de maîtriser les éléments, les atomes qui composent les objets et les êtres, mais permet aussi de contrôler leur volonté. Dans le don, toujours, le Tomen, l'oiseau sorcier démoniaque, ordonne, et Tim, le personnage principal et héros, impuissant, voit son corps obéir.
À présent, marche sur mon feu, veux-tu ? Tim se rendit compte qu'il avançait vers le brasier. Une partie de son esprit se débattait, mais son corps ne manifestait aucune réticence. En réalité, après son premier mouvement d'hésitation, il lui semblait très naturel et très agréable de marcher jusqu'à ce feu, histoire de se réchauffer un peu. Sauf que bizarrement, sa flamboyance ne dégageait aucune chaleur. « À présent, dit Tomen, allonge-toi dedans. » Et là aussi, Tim se serait exécuté si...
Le sortilège n'avait pas été brisé à cet instant. Enfin, la parole du barde peut également se révéler créatrice. Dans l'histoire sans fin, les personnages de la ville d'Amargan adorent les histoires. Mais puisqu'ils sont les personnages d'un livre, ils ne peuvent pas en inventer. Bastian, en revanche, le jeune héros qui au début lisait l'histoire et s'est retrouvé au beau milieu de ces événements, en est, lui, tout à fait capable, puisqu'il est humain. Il a le don, donc, d'inventer des histoires, et lorsque les habitants d'Amargan s'en rendent compte, ils lui demandent, à ce grand poète, de leur faire don de quelques-unes de ses histoires. Bastian, le cœur généreux, décide de leur offrir toutes les histoires qu'il a déjà pu inventer au cours de sa vie en leur en racontant une seule, celle de la bibliothèque d'Amargan. Une telle bibliothèque n'existait pas jusqu'alors, et c'est en fait en racontant l'histoire qu'elle devient réalité. Et grâce à ce pouvoir, Bastian vient en aide aux habitants du pays fantastique, mais leur cause malheureusement souvent plus de mal que de bien, puisqu'il n'a pas l'expérience et la sagesse habituelle des personnages de conteur. Grâce à ce pouvoir, il modifie aussi l'essence du roman que le lecteur tient entre ses mains. Son pouvoir est infini, puisqu'il peut complètement remodeler l'histoire, et pousse ainsi le lecteur à s'interroger sur le rôle de l'auteur, mais aussi et surtout sur celui du lecteur. Si le rôle premier du barde est donc de divertir son public, c'est la fonction poétique du langage, ses mots et sa connaissance de la langue et des récits folkloriques et mythiques qui lui confèrent un pouvoir magique performatif à nul pareil, et pousse le lecteur à s'interroger sur la force de l'impact des mots dans son monde à lui. Alchimiste des mots et maître des mélodies qui touchent le cœur et l'âme, le barde sait comment émouvoir son public, mais il joue aussi avec vérité et mensonge comme avec des ingrédients pour parvenir à faire que les autres personnages fassent ce qui lui semble le plus sage, agissent comme il lui semble être le plus sage. Dans Thomas le Rimeur, le barde, ainsi que l'explique Gavin, a une version bien à lui de l'histoire d'Orphée et Eurydice qu'il mêle à celle d'Hadès et Perséphone et à laquelle il ajoute un contexte celte.
Ma foi, au bon ménestrel, il s'est cru obligé d'en rajouter dans les histoires à dormir debout. Il nous a parlé d'un roi païen, Orphée, et de sa femme, qui avait été enlevée et emportée au pays des elfes par le roi des fées. Mais cet Orphée, comme ça se trouvait, était un grand joueur de harpe. Alors il avait suivi sa femme jusqu'au pays des elfes, et là, il avait tiré des larmes à la reine des elfes. Si bien que sa femme avait reçu la permission de gagner notre monde du milieu avec lui. Seulement, elle avait mangé 7 noisettes du pays des elfes. Lesquelles noisettes étaient des nez réservés aux fées? Les mortels ne peuvent pas se risquer à y toucher. C'est pour ça que 7 jours par an, elle est obligée de retourner vivre dans l'autre contrée.
Le barde est donc celui qui transmet les histoires, mais il est aussi surtout celui qui les traduit et qui les déforme. Dans certains cas, il déforme la réalité au point qu'elle soit mensonge, afin de tirer meilleure parti d'une situation. Dans l'étoile du matin, pour se débarrasser d'un groupe de malfrats qui viennent chercher des noix au héros, Jarek Mace, le barde parvient finalement à leur faire croire qu'il leur propose en fait de rejoindre sa rébellion, qui à ce moment-là n'existe même pas encore. Et de cette manière, les vilains se sentent honorés, et la réputation de Jarek en tant que légende de la résistance s'en trouve grandie, et c'est ainsi qu'elle est en fait créée, petit à petit. Puisque le barde ment allègrement aux autres personnages, difficile de savoir s'il est sincère avec nous, le lecteur, ou s'il nous joue également des tours. Dans Le Sorceleur, le héros, Geralt, tombe par accident sur son ami le poète Jaspier, qui lui raconte qu'un dragon rôde dans les environs et qu'il l'a d'ailleurs lui-même vu de ses yeux.
Ne me vexe pas, sorceleur, je sais ce que je dis, je l'ai vu. Quel menteur tu fais, Jaspier ? Je ne mens pas, je ne fais que colorer la grise réalité, c'est différent.
Et pourtant, il l'admet lui-même, le conteur. Les histoires déforment toujours la réalité. Et Tim, le conteur dans Le Don, est bien d'accord avec lui.
Tout conteur a ses contraintes, et il y a fatalement des histoires que nous préférerions ne pas raconter. Celle que je dois vous livrer maintenant en fait partie, je crains, non qu'elle soit anodine. Mais il arrive parfois que l'on doive broder sur un récit. Il y a des conteurs à qui l'on ferait mieux de ne jamais demander d'éclaircissement.
Rien ne permet donc d'abandonner en toute sûreté sa confiance au barde, et pourtant il est présent et plante les graines de son influence au moment des différents temps forts de l'histoire. Dès les premières pages du roman, il est celui grâce à qui naît la quête, sans laquelle il n'y aurait pas de récit. Dans la Belgariade, Belgarak le sorcier apparaît tout d'abord sous l'apparence d'un conteur, Sir Lou, qui se rend régulièrement à la ferme où grandit le jeune Garion. Il raconte l'histoire des différents dieux et rappelle notamment comment Thorak, le dieu maléfique, a fendu la terre en deux avec l'orbe d'Aldur. Garion ignore à ce moment-là qu'il est l'héritier du trône de Riva et l'élu d'une prophétie qui le destine à retrouver l'orbe et à vaincre Thorak. Belgarath, alias Sir Lou, le sait, lui, et se sert de ce récit historique pour transmettre son héritage culturel à Garion et l'initier à ce qui sera sa quête future. Le barde intervient également pendant la quête, et ses récits ont le pouvoir de changer le cours des choses. Ainsi, dans l'étoile du matin encore, Owen Odell participe à donner à Jarek Mace cette aura de héros dont je vous parlais tout à l'heure et que pourtant il ne mérite pas, parce qu'il n'est pas un héros, et ainsi de créer un véritable mouvement révolutionnaire dans toute la région contre la domination angostine dans les Highlands. Et le peuple va se réunir autour de cet anti-héros grâce à cette réputation de légende que lui forge le barde. Dans Le Don, le conteur raconte toute son histoire au lecteur, certes, mais aussi et surtout à tout un équipage de marins. Et en particulier, comme on l'apprend à la fin, à son capitaine. Et c'est dans sa toute dernière histoire, c'est la toute dernière histoire qui fait prendre conscience au capitaine que le conteur le traquait et l'a retrouvé pour un différend qui leur est commun. Enfin, le dernier pouvoir du barde est probablement celui de laisser une trace même après avoir terminé son récit, car il ne reste que les histoires après que les hommes aient vécu leurs aventures. Dans Les Rois du Monde, Bélovez raconte sa vie à un aide grec pour que son histoire vive après lui et lui confère ainsi une certaine forme d'immortalité.
Dans trois lunes, dans trois hivers, je ne serai plus qu'eau blanche, éparpillée au milieu des herbes folles. Mais quelle importance! Mon nom, mes exploits, mes crimes, jusqu'à ma mort, seront dans tous les cœurs. Je serai toujours, même si mon visage s'efface, même si mes actes se confondent avec les exploits d'autres héros, même si mon nom s'érode et mue selon le dessin capricieux des langues. Je serai, principe souverain et héroïque jusqu'à ce jour peut-être, mon masque guerrier se confondra avec la face hiératique des idoles. Et c'est pourquoi, mon ami, tu raconteras ma vie.
Gardez la trace à tout prix, donc, et même si celle-ci déforme l'histoire avec un grand H. Kélis, dans Avant l'hiver, est chargée d'écrire un ouvrage sur l'histoire des Cides, le peuple féerique.
Ces contes sont, comme en toute matière de ce genre, à nuancer et à prendre au conditionnel. Le peuple est, quoi qu'il en dise, doté d'un bon niveau de subjectivité. Et les avis sur bon nombre de sujets sont pour le moins tranchés. D'autant que, nous le savons, les airs les plus reculés de notre histoire n'ont été fixés par aucune forme écrite.
Il reconnaît donc les limites d'un tel travail, à savoir que les récits qu'il a collectés ne peuvent pas être entièrement fiables puisqu'ils sont subjectifs. Ces récits de légendes, qui sont tout ce qu'il reste des fabuleux héros, permettent ensuite, dans un cercle infini, de donner lieu à de nouvelles quêtes. Dans l'Étoile du matin, l'histoire s'achève sur une boucle temporelle. On découvre que le héros a voyagé dans le temps et que ce qu'il était et qu'il a fait dans le passé est en fait devenu ce qui l'inspire au temps présent, et on se demande s'il reviendra encore pour nous sauver à l'avenir. À la toute fin, l'aventure vécue devient aussi l'histoire qui nous est contée. Dans la nouvelle, le chapitre intitulé « Le bout du monde » dans le premier tome du Sorceleur, il nous est fait le récit de l'une des nombreuses aventures de Geralt. Et dans cette aventure, une fois n'est pas coutume, il est accompagné de son ami, le poète Jasquier. À la toute fin de l'histoire, Jasquier décide de faire de leur aventure une balade et s'interroge sur le titre qu'il devrait lui donner.
C'est vrai, il est bientôt minuit, le feu se meurt. Je vais rester encore un peu. C'est auprès d'un feu mourant que j'ai composé mes meilleures balades. Et pour ma balade, j'ai besoin d'un titre, d'un joli titre. Pourquoi pas le bout du monde ? C'est d'un banal, grommela le poète. Même si c'est effectivement le bout, il faut lui donner un autre nom, le désigner par une métaphore.
Ainsi s'achève la nouvelle sur le même titre que celui donné par l'auteur à ce chapitre et par une petite pirouette autodérisoire de sa part. La boucle est bouclée.
Le barde est ainsi un personnage ambivalent, comme on l'a vu, avec des fonctions multiples. Sa parole est à la fois enchantement et pouvoir, vérité, mensonge et mémoire. Il intervient donc dans plusieurs strates de l'histoire du monde diégétique, en portant la connaissance du passé de l'univers fictionnel, en intervenant directement sur le cours du récit avec une parole magique et redoutablement efficace, et sur la mémoire future en pérennisant, déformant ou effaçant les exploits des héros via ses créations. Les personnages de Bard ont dans tous les cas un pouvoir politique, social et magique qui en fait des personnages essentiels des œuvres dans lesquelles ils apparaissent. Mais si la puissance du Bard est indubitable dans ses différentes œuvres, elle l'est car elle se déroule dans des cultures qui sont des cultures de l'oralité. Le pouvoir du barde meurt d'ailleurs avec l'avènement de l'écriture qui met fin aux contes déformés et aux histoires sublimées par le chant en fixant l'histoire sur un support qui devient preuve de vérité. Bélovès, le héros de Roi du Monde de Jean-Philippe Jaborski, affirme que seule la parole vivante confère l'immortalité et se défie de la pratique de l'écriture qui est pour lui profondément liée à la mort. Et dans les différentes œuvres que nous avons vues, la pratique de l'écriture est en effet... la mort du barde, qui ne sera plus réclamée dans les demeures désormais que ses récits peuvent être retrouvés tout simplement en ouvrant un livre. C'est d'ailleurs ce qui est mis en scène dans Avant l'hiver de Léa Silol, où le barde Kélis, qui a été choisi pour écrire un ouvrage sur l'histoire du peuple féerique, il rassemble des contes, des poèmes, des chansons et les intercale avec ses propres réflexions. Et on a ici en fait une mise en scène du travail du conteur qui devient écrivain, de la parole vivante devenant texte écrit, texte mort, qui ne pourra plus être réinventé par un aide créatif. Le Bard décline ainsi dans l'avènement de l'auteur, les histoires chantées, constamment recréées au fil des aventures d'un ménestrel itinérant, s'achèvent dans l'apparition de l'histoire écrite, qui est destinée à être fixée comme telle pour l'éternité. Et comme l'écrit Léa Silol,
les contes sont un espace de brume, de voile, de mystère, de voix parlées, murmurantes, qu'il faut tendre l'oreille pour saisir. Là où l'histoire commence, le conte s'arrête. Merci beaucoup pour votre attention.
Merci beaucoup. Alors, y a-t-il des questions ?
Oui.
Merci à toutes les deux. Je me posais la question en vous écoutant. Est-ce que cette figure du barde, sous ses différents noms, ne circule entre œuvres de fiction et à travers des personnages imaginaires, ou est-ce qu'on a de temps en temps des références historiques ? Alors, dans l'espace français, je n'en vois pas, mais vous avez des références très internationales. Est-ce qu'on a des barres, hormis le barde avec une majuscule, je vais te dire, mais dont on voit qu'il n'est pas nommé directement pour des fonctions bardiques, Est-ce qu'on a d'autres références comme ça qu'on pourrait rattacher à des cours, à des souverains ou tout simplement à des personnalités qui auraient marqué cette collection?
Alors, le personnage de Thomas Le Rimeur, hein, il est repris dans ce roman d'Hélène Kutcher, mais il est inspiré d'un personnage qui serait apparemment historique. Alors, je vous avoue que j'ai plus vraiment en tête ce point, j'avais cherché et puis ça m'est un petit peu oublié. Mais il est inspiré en tout cas d'un personnage qui serait historique et qui est cité dans certains textes écossais, il me semble, si je ne me trompe pas. J'espère que ça répond un peu à votre question.
C'est un personnage du 13e
siècle. Merci. Merci. Oui, il me semblait que ce n'était pas sûr complètement que ce soit un personnage historique, mais qu'il est mentionné dans des textes. D'accord. Merci. Je sais pas.
Après, ça ne semble pas être la majorité.
Pour votre présentation. Alors, vous avez commencé par une définition qui était tirée d'un manuel de jeu de rôle. Alors, je me demandais, est-ce que dans les exemples que vous avez cités, ou peut-être vous en connaissez d'autres, est-ce que vous pensez que le bar de Donjons et Dragons a pu influencer, par exemple, une source pour les exemples que vous donnez, notamment parfois le bar de magicien, c'est typique. Est-ce que ça, est-ce que pas les auteurs étaient des joueurs, est-ce que ça a pu les inspirer? Donc, ça, c'est une première question. Et l'autre, c'est est-ce que vous avez des exemples de Scald? Et est-ce qu'on fait une différence alors entre des personnages qui seraient des scales et des personnages qui seraient des barbes?
Pour la deuxième partie sur les personnages de Scald, on en a peu trouvé et pas des personnages aussi développés. Après, c'est peut-être juste qu'on ne les a pas trouvés. Mais ceux qui apparaissent ont des rôles, ouais, comme dit, beaucoup moins importants. Mais par contre, il y en a, oui. Pas toutes les références en tête, mais dans la rune du loup, je crois me souvenir qu'il y a des scalds qui apparaissent ou en tout cas qui sont mentionnés. Je suis sûre qu'il doit y avoir d'autres exemples.
Et pour la première partie de la question sur le jeu de rôle, alors j'ai pas de. Je ne sais pas si Elizabeth Hayden, donc l'auteur de la Symphonie des siècles, est rôliste, mais je trouve que ça, la façon dont la baptistrelle Rhapsody utilise sa magie bardique est. Ouais. Ça peut faire penser au jeu de rôle, hein, la chanson du pain pour lui faire retrouver sa forme originelle, la chanson pour protéger les personnages quand ils rentrent dans un mur de feu. On a en effet l'impression dans le roman que dès que le groupe de héros est confronté à une difficulté, elle sort sa flûte, sa lyre, et hop, miracle, tout va bien. Ça fait un petit peu. Oui, ça peut faire penser au jeu de rôle. Après, j'ai pas de preuve que Elizabeth Hayden soit rôliste, hein, je l'ai pas du tout vérifié, mais ça peut faire penser à ça. Alors, concernant la première partie de ce que tu as dit sur les références, c'est vrai que Caracol, hein, dans Damasio, bien sûr, bien pensé. Après, c'est vrai, c'était une question plutôt de temps. On avait déjà un gros corpus, et L'Art du Contrevent est un roman quand même assez épais, et notre présentation était déjà très longue. Voilà. Mais clairement, si on avait eu l'occasion, c'est un personnage qu'on aurait beaucoup aimé intégrer à cette communication, c'est sûr, parce que son rôle est vraiment extraordinaire, hein, dans le roman, ces scènes de joute poétique qui sont mémorables. Hein, voilà. On aurait beaucoup, beaucoup aimé en parler. Malheureusement, c'était plus une question de manque de temps. Pour le jeu Zelda, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire.
J'ai très peu joué à Zelda, mais effectivement, enfin, je pense simplement que tous ces univers sont liés, en fait, Et difficile de savoir qu'est-ce qui a influencé quoi, mais je pense qu'évidemment, on peut faire le lien et y voir des influences partagées et interchangeables.
On est d'accord avec ce que tu dis sur le dessin, c'est chez Botero, c'est très frappant. Mm.
On m'entend pas.
Ah pardon, c'est bon. J'ai été très intéressé parce que ça rejoint un petit peu mes intérêts aussi en dessin aussi. Et la performativité, c'est des choses qu'on discute évidemment beaucoup, parce que ça rentre dans le cadre des jeunes langages, en particulier dans les plans habituels et basiques de la sémantique. Vous avez parlé aussi de fonctions poétiques, quand vous parlez ça m'a fait penser à une chose aussi, il y a une espèce de, je ne sais pas trop si c'est quelque chose de réel ou un espèce de mythe dans le sens du langage, mais une influence entre nature et culture, par exemple, il y a beaucoup cette idée que performée par la langue ou que le monde est influé par la langue qu'on pratique et qu'on parle, c'est les thèses de Saint-Pierre-Loire qui sont très remises en question parce qu'il y a une notion qui est assez simple derrière. Mais il semble quand même que cognitivement, on peut quand même bouger, etc. C'est très discuté, on ne s'est pas tranché. Voilà. Et en tout cas, encore une fois, là aussi, on ne sait pas si c'est réel ou si c'est encore une fois une sorte de langage, mais la magie des mots, c'est très inventé, peut-être pas assez, c'est dans le point de vue. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, en fait. L'impact. Et une suggestion aussi pour le corpus, la balade de Père. Parce que le nom du site lui-même est balade. Donc la tradition est véhiculée par les ménestrels, qu'on appelle harpistes, hein, sans les harpistes, le monde est perdu, condamné par la vie des filles. Voilà.
Merci. Merci. Puis si tu peux nous fournir une petite liste de lecture sur ce que. Voilà.
Du coup, je pense que pour rester fidèle au planning, je pense qu'on va devoir s'arrêter là. Je vous invite peut-être à échanger, à poser vos questions pendant la pause, de manière à ce qu'on reste. Ok, une petite remarque, alors dernière remarque.
Ouais, sur la langue, peut-être, je parle de l'hypothèse Saphir Warp, c'est Warp, parce que je suis aussi de Saphir. Je me permets d'intervenir. Il a beaucoup poussé à l'extrême ce que disait Saphir, et voire à caricaturer l'idée que la langue transforme ou fait voir le monde d'une certaine manière, il a poussé à l'extrême, et du coup c'est discutable, Saphir n'allait pas aussi loin.